grande voile, de forme triangulaire, s'établit le long du mât.
Débat et société.
Actualité étudiante et associative.
Du lundi au jeudi, 18h-18h30.
Voguez sur les ondes de l'information locale avec l'Optimiste.
La quasi-quotidienne de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute des bonnes ondes du 103 FM, bonnes ondes que l'on va naviguer ensemble ce soir à la découverte de l'actualité locale avec notre fidèle optimiste. Aujourd'hui, notre première invitée à bord est Chloé qui, comme tous les mercredis, nous vient du Planning Familial 49 pour sa chronique hebdomadaire. Dans le cadre du mois du genre, on va parler ensuite ce soir de femmes migrantes, trop souvent invisibilisées dans leur parcours périlleux. On s'est entretenu un peu plus tôt dans la journée avec Camille Schmoll, autrice de Les Damnées de la mer, Femmes et frontières en Méditerranée. Elle sera à Angers mardi prochain pour une conférence organisée pour ce mois du genre de l'Université d'Angers. Pour terminer, on fait escale à l'association Quasar où Enora s'est rendue il y a quelques jours pour découvrir les activités du pôle trans. Voilà pour notre route de ce soir. Enfilez vos gilets de sauvetage, c'est parti! Bonsoir Chloé.
Bonsoir.
Alors de quoi tu vas nous parler ce soir?
Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire du planning familial. Donc on le connaît depuis longtemps et c'est un mouvement qui s'est implanté dans le paysage associatif depuis des années. Tout le monde en a déjà entendu parler, quelle que soit la génération. Bon, certes, la vision sur ce mouvement change selon les âges, des personnes avec qui on en parle, mais cela reste quelque chose que tout le monde connaît. Le planning familial est né en 1956 sous le nom de la maternité heureuse. À l'époque, c'était surtout pour informer sur le contrôle des naissances. Ça tournait surtout autour de la contraception et les actions et revendications étaient moins larges qu'aujourd'hui. À l'époque, c'était surtout pour lutter contre les avortements clandestins qui étaient encore en très grand nombre en France. Le mouvement était encore très peu répandu car très mal vu, ce qu'on peut imaginer quand nous pensons à la vision que la France avait du contrôle des naissances. C'est en 1960 que la maternité heureuse devient le planning familial et adhère à l'IPPF, soit, alors je suis désolée d'avance pour mon accent, International Planned Parenthood Federation. L'IPPF est un mouvement créé à Bombay et qui était basé à Londres. Donc, on remonte un peu en arrière. Dans les années 20, passait une loi qui interdisait la contraception. Le planning familial importe clandestinement des produits contraceptifs tels que des gels spermicides dans les années 60. Dès ce moment-là, il pratique aussi le conseil familial et sexuel afin de venir en aide aux personnes qui en ressentent le besoin. Les premiers lieux du planning familial sont ouverts de façon clandestine. Donc, l'aspect militant du planning familial, il apparaît également dans les années 60, avec l'influence de mai 68. Même si le planning ne prend pas officiellement part à la révolte, cela influe forcément sur sa façon de se positionner sur ces sujets. Émergent alors également de nouvelles formes de féminisme, ce qui permet au planning de prendre part à un aspect plus militant sur ces questions. C'est également à cette époque que le planning devient un mouvement d'éducation populaire, qui porte des valeurs de transmission de connaissances sur la sexualité. Ça reste encore aujourd'hui, comme on a pu le voir dans de précédentes chroniques, quelque chose de très important et d'essentiel pour le mouvement de nos jours. Aujourd'hui, le planning familial est beaucoup plus répandu et compte 72 associations départementales et 9 associations régionales. Si à l'époque le planning était surtout parisien, même si, on ne le sait pas, mais la ville pilote pour le premier centre du planning familial était à Grenoble, aujourd'hui, nous pouvons voir que le mouvement est présent dans de nombreuses villes de la métropole, mais aussi dans les territoires d'outre-mer. Le planning a su s'imposer comme une institution dans le paysage militant et féministe, et aussi dans le cadre de l'éducation populaire. Toujours mu par des valeurs d'égalité, le planning a gardé son aspect militant, qui est encore un pan essentiel du mouvement. Je vais terminer en rappelant que les droits que nous avons pu obtenir ne sont jamais acquis. Il est toujours essentiel de lutter pour les garder et pour avancer sur certains sujets. Si nous ne sommes plus dans la clandestinité pour obtenir notre moyen de contraception, cela ne veut pas dire que cela est acquis et que cela restera toujours comme ça. De plus, il y a de nombreux sujets liés à l'égalité que nous devons remettre sur la table, car il est toujours nécessaire de lutter.
Merci beaucoup Chloé, on te retrouve la semaine prochaine pour ta prochaine chronique. On écoute maintenant l'interview avec Camille Schmoll, autrice de « Les damnés de la mer, femmes et frontières en Méditerranée » que j'ai pu interviewer un peu plus tôt aujourd'hui. Bonjour Camille Schmoll.
Bonjour.
Vous êtes géographe spécialiste des migrations dans l'espace euro-méditerranéen. Et vous êtes aussi membre de l'Institut universitaire de France et vous avez fondé avec Hélène Thiollet et Virginie Guiradon le JEM, le groupe international d'experts et expertes sur l'immigration, un écho au GIEC. Et vous serez à Angers le mardi 29 mars pour présenter votre livre « Les damnés de la mer, femmes et frontières en Méditerranée » dans le cadre du mois du genre de l'Université d'Angers. Donc avant d'en parler plus dans le détail, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser au sujet des migrations et des migrations au féminin plus précisément ?
Alors en fait, je travaille depuis longtemps sur la question des migrations en Méditerranée, depuis le début de mes études, et je travaillais essentiellement sur des migrations provenant d'Afrique du Nord vers l'Europe du Sud. Et puis, je faisais des enquêtes de terrain, assez classiques. Et au fur et à mesure de mes enquêtes de terrain, j'ai pris conscience de l'importance des femmes dans ces migrations. Et en même temps, c'était un sujet qui, à l'époque, était relativement minoré, en fait, dans les travaux en sciences sociales sur les migrations. On parlait beaucoup des hommes, plus rarement des femmes, beaucoup plus rarement des femmes, en fait. Et quand on en parlait, elles étaient finalement décrites comme des suivantes, des épouses, des filles, des mères. Mais très rarement, on évoquait cette figure de la migration féminine sur laquelle j'ai pu travailler ces dernières années et sur laquelle il y a de plus en plus de travaux, que sont ces femmes qui partent seules.
Et en effet, votre livre « Les damnés de la mer » est issu d'une enquête au long cours que vous avez menée sur le terrain, donc en Italie, à Malte et un petit peu en France aussi. Et vous intégrez dans votre livre des récits à la première personne des femmes migrantes. Vous faites souvent référence à leurs histoires, les histoires que vous avez pu écouter pour élaborer votre propos. Et en quoi, pour vous, cette approche est-elle féministe et aussi intersectionnelle ?
C'est une approche qui est justement très influencée par les approches féministes de différentes façons, parce que bien entendu, l'idée est de travailler le positionnement de ces femmes en migration dans des rapports de pouvoir, des rapports d'inégalité qui sont multiples, puisque c'est à la fois en tant que migrante, mais aussi en tant que femme africaines, qu'elles sont dans des situations parfois de subordination en fait. Et donc l'idée c'était de croiser, et donc c'est là que c'est une perspective intersectionnelle, l'idée c'était de croiser à la fois ce qui était lié à leur situation légale, à leur situation migratoire, ce sont le plus souvent des demandeuses d'asile, au fait des femmes africaines et qui influent beaucoup sur la façon dont elles sont perçues par les sociétés sociétés de transit, les sociétés d'accueil, pour le dire avec beaucoup de guillemets, et en même temps féministes parce que intéressées au point de vue, à la singularité des points de vue de chacune de ces femmes et à la façon dont malgré tout elles résistent à ce qui leur est imposé en termes de notamment de politique migratoire et puis de stéréotypes liés à leur origine, leur genre, voilà.
Et ce qui m'a marqué aussi dans l'introduction de votre livre, c'est que vous avouez vous-même d'être une femme blanche, française, non issue d'immigration, et que donc pour vous, prendre la parole en quelque sorte à la place de ces femmes migrantes peut être considéré comme une forme d'oppression. Et c'est pour cela aussi que vous consacrez l'un des premiers chapitres au récit à la première personne de Julienne, qui est une femme camerounaise émigrée d'abord en Italie et puis en France, que vous avez rencontrée et qui vous a raconté son histoire d'émigration. Donc pourquoi, malgré tout, vous avez choisi de prendre la parole sur ce sujet ?
Alors, blanche, française, tout à fait, non issue de l'immigration, je relativiserai un petit peu parce que je pense qu'on a tous et toutes en France, et par chance, des histoires qui sont d'une manière ou d'une autre liées à l'immigration, et c'est une, en fait, c'est une richesse. Mais effectivement, c'est compliqué la question du positionnement. Il est vrai que il y a une distance incommensurable entre ces femmes et moi, et je dirais pas tant, bien entendu, du fait d'être une femme blanche, d'être une femme de nationalité française. C'est surtout ça, en fait, c'est la différence légale, la différence de nationalité, la différence de statut qui fait que on parle, je parle d'un point de vue qui est celui d'une position finalement de sécurité qui me permet aussi de prendre la parole sur certains sujets. Hein. Ces femmes n'ont pas cette possibilité-là. Donc, l'idée de donner la parole à Julienne pour un chapitre dans ce livre, c'était aussi de restituer son récit à la première personne. Et bien entendu, ça ne comble aucune forme de distance, et il reste que c'est, et ça je ne peux pas y faire grand chose, hein, il reste que c'est un livre écrit par moi, essentiellement, et donc qui garde cette forme de distance vis-à-vis de ce que vivent ces femmes, absolument. Ouais.
Vous expliquez par rapport aux routes des migrations que ce sont les mères des familles ou les filles aînées d'une fratrie, par exemple, qui sont les premières à prendre la route, souvent pour ouvrir la voie pour les frères plus jeunes. Alors peut-être qu'on peut dire que ce sont les femmes justement qui tracent aussi les routes migratoires.
Absolument, il y a des itinéraires d'ailleurs différenciés souvent, hein, selon qu'on est un homme ou une femme, des épreuves aussi qui sont extrêmement différenciées. Et puis effectivement, dans les familles, dans les fratries, il y a souvent, quand on confie en fait aux femmes la responsabilité d'être les premières à prendre la route de la migration, eh bien effectivement, souvent ce sont les filles aînées qui prennent cette responsabilité. Et ça, je l'ai retrouvé, j'étais très surprise, je l'ai retrouvé d'entretien en entretien. Il y a comme ça des points communs entre ces femmes, effectivement, le fait d'être des filles aînées souvent, le fait aussi d'avoir vécu des ruptures familiales assez importantes, des violences de genre même, ça c'est au départ, il y a très 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 souvent des violences genrées, hein, quelles qu'elles soient. Et donc, finalement, c'est ce que j'ai voulu restituer dans le livre, c'est d'un côté la singularité de chaque parcours, mais de l'autre, essayer de comprendre quand même quels sont les points communs entre ces différentes femmes, et ça en fait partie.
Oui, et dans votre livre, vous donnez aussi à voir la complexité de motivation qui pousse une femme à quitter son pays. Pourtant, ici en Europe, certains médias ou aussi une partie de l'opinion publique font croire que les raisons de leur départ sont linéaires. Donc pour moi, ça aussi, c'est une forme de violence.
Absolument, c'est une immense complexité, la question de la migration. Et quand bien même on essaierait de réduire les causes de la migration à une cause principale, parce qu'il faut ranger les personnes dans des boîtes, parce qu'après, ça détermine évidemment aussi le traitement et le traitement juridique qui sera réservé à ces personnes-là. En réalité, quand on va dans la finesse des trajectoires, quand on essaie de comprendre un peu la vie que menaient les personnes avant de partir, on comprend très vite que y a plusieurs temporalités d'abord dans la décision de la migration. Il y a des choses qui se décident bien en amont, et puis finalement les modalités et un certain nombre d'aspects de la migration vont se décider plutôt au dernier moment. Et puis il y a à la fois une dimension économique, une dimension de genre, une dimension qui est fortement liée évidemment à la dimension économique, une dimension politique. Bon, après, il y a des femmes qui fuient des conflits absolument épouvantables ou des régimes autoritaires, mais il y a toujours quand même un mélange de motivation. Et surtout, il y a aussi un mélange de motivation et un mélange d'autant plus quand on suit les personnes au fil de la trajectoire, en fait, parce que ça se recompose sans cesse. Donc, au fil des pays qu'on traverse, des frontières qu'on traverse, des personnes qu'on rencontre, des opportunités qui se présentent ou au contraire des obstacles, on va redéfinir son projet migratoire.
Tout à fait. Et à propos du voyage, les femmes migrantes subissent la double oppression d'être femmes et d'être migrantes qui s'imbrique au racisme qu'elles peuvent rencontrer par exemple en Libye envers les Noirs, entre guillemets. Et ces oppressions se reproduisent aussi dans le pays d'accueil. Donc pour vous, j'imagine que donner à voir ce parcours, c'est aussi un moyen de lutter ou en tout cas de rendre visibles ces oppressions qui sont assez systématiques.
Absolument. Je pense que c'est une des grandes questions de notre époque. C'est pourquoi et jusqu'où va-t-on aller ? Pourquoi laisse-t-on faire ? Pourquoi laisse-t-on, alors qu'on connaît très bien la situation, on connaît la situation sur les routes, on connaît la situation en Libye, on connaît la question à l'arrivée. On fait aussi affaire avec la Libye pour que la Libye se charge du contrôle migratoire. Pourquoi laisse-t-on ces violences, ces crimes se dérouler ? Pourquoi un durcissement si important des politiques migratoires à l'encontre des femmes et des hommes ? Quand on voit en plus, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui autour de la crise ukrainienne et des arrivées de femmes ukrainiennes, de femmes et de familles, et on voit qu'une autre voie est possible et que finalement, quand la volonté politique est là, il y a d'autres solutions à imaginer quand il y a une espèce d'élan de solidarité et surtout une volonté politique forte, parce que des élans de solidarité, il y en a eu pour d'autres populations aussi en Europe. Le problème, c'est que la volonté politique n'a pas accompagné. Donc on le voit très bien dans le cas ukrainien, et c'est là qu'on peut se poser une question qui est une question très, très douloureuse hein, pour nous, société européenne, à savoir... Est-ce que les politiques migratoires ne sont pas quand même un peu racistes ?
Oui, c'est une grande question. Et d'ailleurs, à propos de politiques migratoires, vous expliquez aussi que les motivations multiples qui poussent les femmes à partir vont à l'encontre du système d'asile qui, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, cherche à faire entrer les migrants et migrantes dans des cases. Donc, est-ce que vous pensez que la pensée féministe européenne pourrait aussi faire évoluer les choses sur le système d'asile? Est-ce que les choses sont en train d'évoluer?
Alors, le système d'asile européen, ou dans certains pays européens, en tout cas, il évolue. Il y a un phénomène d'entrée, en fait, de qu'on appelle le gender mainstreaming parfois, hein, c'est-à-dire le genre devient de plus en plus une catégorie de l'action publique, et donc on peut dire qu'aujourd'hui le système d'asile est plus sensible aux questions de genre et notamment aux questions de violence de genre au départ, c'est-à-dire qu'on accorde plus facilement l'asile pour des raisons liées au genre qu'il y a encore 5 ans ou 10 ans ou 15 ans, ça on le voit très clairement. Mais il y a encore énormément de problèmes de prise en compte de ces violences de genre. Et puis, une des grandes injustices dont je témoigne dans le livre, en fait, c'est le fait que les systèmes d'asile ne sont pas faits pour protéger la loi, la Convention de Genève, la loi sur l'asile, n'est pas faite pour protéger les personnes qui subissent les pires violences en route. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection prévue pour ces personnes-là, sauf à tordre un peu le droit. Et ça, c'est une énorme difficulté face à laquelle sont confrontées toutes ces femmes, c'est qu'elles arrivent et elles ont surtout vécu des violences atroces en route. Et il n'y a pas de système de protection qui permette de leur donner un statut, une reconnaissance, une possibilité finalement de se poser et d'accéder aux sociétés d'accueil de façon légale, quelque part.
Vous avez cofondé le JM, comme on le disait au début, donc le groupe international d'expertes et experts sur les migrations. Et ce groupe vise notamment à proposer un dialogue entre chercheuses, chercheurs et gouvernements sur les politiques migratoires. Comment, donc, au sein de cette mission, vous faites entendre la voix des femmes migrantes ?
Difficile à dire parce que le JM est un petit peu en pause, malheureusement. C'est quelque chose qu'on a fondé avant la crise du Covid et qui permettait de faire entendre de façon collective la voix des chercheuses et des chercheurs travaillant sur les questions d'asile et de migration. Et puis, le JM s'est un petit peu essoufflé. On espère qu'il repartira. Mais en l'occurrence, c'est vrai que la question du genre et des femmes était une des questions sur lesquelles on souhaitait intervenir dans le débat public et surtout auprès des décideurs. Mais bon, il faut bien le dire, le GM est aussi né du constat que, et malheureusement, encore une fois, hein, la crise ukrainienne est riche en enseignements de ce point de vue, du constat que les décideurs n'écoutent pas les chercheurs, malheureusement. On a beaucoup à apprendre, c'est pour ça qu'on s'est inspiré du modèle du GIEC. On a beaucoup à apprendre du GIEC, qui a mis plusieurs décennies avant de savoir correctement communiquer auprès des décideurs politiques. Et encore, on voit que c'est très compliqué. Et en fait, l'idée, c'est de savoir comment réussir, parce que les décideurs politiques sont au courant de la situation. Ils le savent que ces politiques ne fonctionnent pas et en plus sont extrêmement violentes et mortifères. Mais malgré tout, malgré cette connaissance de la situation, il n'y a pas véritablement de changement et on peut véritablement regretter.
Et est-ce qu'au sein de ce groupe, vous souhaitez aussi laisser la place directement aux femmes migrantes dans ces instances pour que leur voix soit entendue ?
Pourquoi pas ? Je vous dis, c'est en chantier, donc ce sont des choses qui évidemment sont évoquées dans les discussions qu'on a pu avoir. C'est une vraie question. Bien sûr.
Est-ce que vous craignez en quelque sorte que la pandémie ou d'autres crises auxquelles les gouvernements européens font face en ce moment puissent mettre de côté la question migratoire en Méditerranée ?
Oui, je pense que on peut le craindre, effectivement. Il y a une banalisation de ce qui se passe. Il y a un oubli aussi, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup ému en 2015 quand le petit Alan a été retrouvé sur une plage turque. Aujourd'hui, plus personne ne s'émeut du sort des migrants en Méditerranée. Et comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un des grands drames de l'époque et sur lequel nous aurons à rendre des comptes.
Merci beaucoup Camille Schmoll. Je le rappelle, Camille, vous êtes géographe et autrice du livre Les Damnés de la mer, Femmes et frontières en Méditerranée, qui est paru aux éditions de La Découverte en 2020. Et vous serez à Angers, à la Bibliothèque universitaire de Saint-Serge, mardi prochain, le 29 mars, à 18h, pour présenter ce livre dans le cadre d'une conférence organisée pendant le mois du genre de l'Université d'Angers. Merci beaucoup.
Merci à vous, bonne soirée.
Sunken at the back of her head, circled eyed, indifferent sunset. Lavender knew how to dress the passing of time. A thousand
Il est 18h23, vous êtes toujours sur le 103 FM, on navigue les bonnes ondes de Radio Campus Angers avec notre optimiste et vous venez d'écouter Circled Eye de East Sister. Notre optimiste fait maintenant étape à l'association Quasar, où Enora s'est rendue il y a quelques jours. Quasar, c'est le centre LGBTQIA+ du Maine-et-Loire. Depuis 1993, il représente et accompagne la communauté LGBTQIA+, grâce à des rencontres, des actions de sensibilisation dans les écoles et beaucoup d'autres activités et actions. Le nouveau cap de Quasar, c'est le renouveau du pôle spécial jeune qui a été arrêté pendant la crise sanitaire. Donc on écoute tout de suite son reportage Murmure.
Résistance, résistance, résistance. Mettre en joue les discriminations.
un podcast qui donne la parole aux voix engagées. Les quasars sont les entités les plus lumineuses de la galaxie. Mais quasar, avec un Z, c'est un rayon de lumière pour les personnes LGBTQIA+ de l'Anjou.
Alors du coup, voici l'entrée.
C'est quoi ça?
Voilà.
Le drapeau arc-en-ciel trône fièrement au 15 rue de Jérusalem à Angers. Dans une pièce remplie d'autocollants et de livres, Catel et Alex sont en pleine réunion. Les deux bénévoles planifient la relance du pôle 15-25 ans de Quasar, un espace entièrement dédié aux jeunes en questionnement sur leur genre et leur sexualité.
Et là, le local, voilà, c'est là où il y a la bibliothèque en fait.
L'intérêt du coup pôle 15-25, c'est que ça peut être encore des générations qui vont manquer peut-être de représentation et du coup d'acceptation en fait dans les milieux sociaux. Et donc c'est souvent des personnes qui vont avoir tendance à se cacher, un peu plus se renfermer.
Ce que ça nous apporte, nous en tant que jeunes, c'est de se retrouver entre pairs, donc P-A-I-R-S, et donc entre personnes aussi de la même génération finalement, d'avoir les mêmes références, d'avoir aussi des points communs en termes de vécu, même si c'est jamais exactement la même chose. Le fait d'avoir ce lieu-là, c'est aussi une sorte de tremplin pour l'estime de soi aussi, quoi, finalement.
Mais c'est ça, ouais. Ouais, on pourra amener des trucs en plus, ouais. L'idée, c'est de partager aussi.
J'ai longtemps en tout cas eu envie de militer sur cette question et comme moi je ne m'acceptais pas au départ moi-même, c'était difficile d'envisager de le faire pour d'autres et je trouve que le fait d'avoir intégré Quasar, ça montre aussi cette évolution-là en fait de ma part et que j'ai envie en fait de participer à ma manière et à mon échelle, à celle des autres quoi.
C'est la même chose pour le fait d'avouer, d'utiliser le terme, le verbe avouer. On n'avoue jamais rien. Quand on fait un coming out, on n'avoue pas. On révèle, on se dit, on se définit, mais on n'a commis aucune faute.
Ça va concerner des jeunes qui seront concernés par les thématiques LGBTI+, mais toutes les personnes aussi qui vont être en questionnement ou qui ne vont pas avoir les réponses dans leur entourage, mais qui peuvent y être exposées. En se regroupant au sein de Quasar, on ressent une convivialité en fait, auprès des personnes qui vont nous ressembler. Et derrière, ce sera plus facile de s'exprimer, enfin, comment dire, intérieurement, et aussi derrière de savoir un peu plus qui on est et ce que l'on souhaite et comment on souhaite le vivre.
On ressent quand même globalement ce besoin de se retrouver entre personnes semblables, entre personnes LGBT, et donc de se sentir moins seul en fait avec nos différences, nos questionnements en termes de « oui, je fais partie d'une minorité ». C'est le fait juste de pouvoir parler sans se sentir en permanence jugé, sans avoir à tout expliquer en fait les termes, par exemple d'être trans, non-binaire, etc. Le fait de se retrouver dans des lieux comme ça où ces réalités-là, elles sont conscientisées, les personnes se sentent comprises et écoutées telles qu'elles sont.
Non, dans la petite enfance, on commence à entendre des termes d'éducation non-genrée, que je trouve vraiment intéressant ça. Ouais. Parler.
En tout cas, pour les rendez-vous individuels, c'est beaucoup de cet isolement-là qui revient. Et c'est pas forcément de l'isolement social, dans le sens où la personne, elle peut vraiment avoir des amis, une famille, etc. C'est aussi un isolement personnel, se retrouver seul avec ses questionnements, avec cette découverte aussi de soi, et le fait de pas pouvoir en parler avec son entourage, parce que on ne connaît jamais à l'avance les réactions que peut avoir notre entourage.
Il y a plein de ressources vraiment différentes, des fictions sur les thèmes LGBT, mais c'est aussi des livres un peu plus à visée informative, quoi. Sur ici la PMA, GPA, il y a des livres aussi sur.
Le fait de voir d'autres personnes, parfois pas forcément des jeunes, mais aussi des personnes moins jeunes, justement, on se dit, ok, en fait, c'est possible de se vivre bisexuel ou lesbienne à long terme, en fait. Et les représentations, elles passent aussi avec. Des personnes connues, quoi. Que ce soit dans le milieu du sport, dans le milieu de la musique. En ce moment, il y a de plus en plus, en tout cas, de coming out, justement, des personnes qui révèlent leur homosexualité. Ça paraît anodin comme ça, mais en fait, au niveau symbolique, on se dit, ok, c'est possible d'être d'être homosexuel et de parvenir à être heureux, quoi. C'est ça, le truc.
C'est le livre d'Amina, qui est la mère de Bilal Hassani. Ah, oui. Donc elle raconte comment elle a éduqué ses deux enfants, Taha et Bilal, en arrivant en France.
Alexis Catel n'attend que le coup d'envoi des nouvelles permanences spéciales 15-25 ans. Elles sont ouvertes à toutes et à tous, que vous fassiez partie de la communauté LGBTQIA+, ou que vous soyez indirectement concerné. Ça a lieu tous les 15 jours de 14h30 à 17h, dès le samedi 9 avril. Inscription et posture bienveillante sont évidemment requises. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur page Facebook Quasar Angers ou sur le site internet quasar.fr.
Mais pas leur âme, car leur âme habite la maison de demain que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves.
Murmure, le kit sonore des territoires.
Merci à Enora pour ce reportage. Comme vous l'avez entendu, je vous rappelle que la première permanence du pôle 15-25 ans de Quasar reprendra donc le 9 avril au 15 rue de Jérusalem à Angers, de 14h30 à 17h. Et quant à nous, c'est la fin de notre virée dans l'actualité locale pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Mais restez encore sur notre fréquence, le 103 FM, pour un programme très riche ce soir avec le coureur de funk tout de suite de 19h à 20h. Et ensuite, votre rendez-vous sportif avec Ta Gueule Coubertin à 20h. Et pour finir, un peu de rap avec les Scratch Fellas à 21h et Lamine de 22h30 jusqu'à minuit. Très belle soirée à vous sur le 103 FM.
Vous pouvez écouter l'émission sur le www.radiocampusangers.com.